midi, 8h à Paris et Berlin, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli. Des scènes d'horreur hier au marché de Magdebourg en Allemagne.
Une voiture a foncé dans la foule, tuant au moins 2 personnes. Événement qui ravive le traumatisme de l'attaque du marché de Noël de Berlin en 2016. Le profil de l'auteur de l'attaque d'hier lui reste flou. La piste islamiste ne semble pas privilégiée en l'état. Nous serons à Berlin dans un instant. Dans ce journal aussi, la fragile union des différents groupes armés qui ont fait chuter Bachar al-Assad en Syrie. Reportage dans ce journal, dans la Route, bastion de la rébellion en périphérie de Damas. À la une également, pas de shutdown aux États-Unis. Les élus républicains ont voté aux côtés des démocrates pour faire passer un texte qui assure un financement jusqu'en mars prochain aux grandes dames, vous l'entendrez, de Donald Trump. On ne pourra pas rouvrir toutes les écoles à Mayotte le 13 janvier. Déclaration d'Emmanuel Macron. Après son déplacement à Mayotte, le président français promet néanmoins le raccordement des foyers à l'eau ce week-end. Et puis le vice Premier ministre italien Matteo Salvini relaxé dans l'affaire d'un bateau transportant des migrants qu'il avait bloqué en mer pendant 20 jours. C'était à l'été 2019.
Une voiture qui fonce à vive allure dans la foule, fauchant des passants.
Une scène d'horreur hier soir sur le marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne. Une grosse cylindrée a pénétré dans l'espace du marché de Noël, fonçant sur la foule à très vive allure. Bilan provisoire, 2 morts, dont un enfant, 60 blessés, 15 sont dans un état très grave. Pascal Thibault, vous êtes en direct avec nous de Berlin, bonjour.
Bonjour.
L'assaillant Pascal a lui été arrêté et on en sait un peu plus ce matin sur son profil.
Oui, en effet, l'homme âgé de 50 ans est originaire d'Arabie Saoudite. Il travaillait dans la région, à proximité de Magdebourg. Il est arrivé en 2006 pour ses études en Allemagne. Il avait une formation de médecin psychiatre et avait obtenu le statut de réfugié en raison, visiblement, de son hostilité au régime saoudien. Dans une interview à un quotidien allemand, il se présentait en 2019 comme un critique agressif de l'islam. Cet activiste connu dans la communauté saoudienne aidait, grâce à un site internet, des personnes persécuté dans son pays, à obtenir l'asile politique, notamment en Allemagne. Son hostilité à sa religion d'origine semble être devenue de plus en plus radicale. Il avait sur le net dénoncé même le danger d'une islamisation de l'Allemagne. Taleb A se considérait même comme victime de persécution en Allemagne. Il dénonçait la police qui aurait refusé de le protéger et il parlait d'un plan de Berlin pour chasser les réfugiés saoudiens du pays. Il avait écrit sur le net que seul le parti d'extrême droite AFD pouvait le protéger. Il avait même émis des menaces sur les réseaux sociaux évoquant une possible vengeance, donc potentiellement un attentat, et rêvait d'une académie composée d'anciens musulmans pour combattre l'islam en Allemagne. Un profil donc assez perturbant.
Pascal Thibault, merci beaucoup. En direct avec nous de Berlin, j'ajoute que cette attaque a lieu à l'approche des élections législatives allemandes anticipées. Ce sera le 23 février prochain. Hier, la France, l'Italie ou encore l'Espagne ont témoigné de leur soutien à l'Allemagne après cette attaque. L'Arabie Saoudite a également exprimé sa solidarité, disons tout son rejet de la violence.
La Syrie ne sera une source de préoccupation pour aucun pays arabe.
Une déclaration hier du chef du groupe Hayat Tahrir el-Sham, Mohamed al-Joulani, s'exprimait dans les tribunes d'un quotidien saoudien. Les autorités de transition à Damas qui doivent ménager les intérêts divergents des puissances arabes et de la Turquie. Mais la coalition que forme le HTS avec d'autres forces syriennes semble fragile. Nos envoyés spéciaux sur place, Julien Boileau et Oriane Verdier, se sont rendus dans la Route, bastion de la rébellion, en périphérie de Damas, qui a subi des années de combat. Un bombardement également au gaz sarin mené par l'armée de Bachar al-Assad à l'été 2013. Et sur place, les groupes rebelles issus de la population locale ont repris le contrôle de la zone. Reportage.
Bilal avait 18 ans en 2011 quand la révolution a commencé. À la mort de son meilleur ami, tué par le régime, il a rejoint le groupe armé Jaïch al-Islam. Après des années de combats et de bombardements dans la Route, Bilal s'est finalement réfugié avec sa famille dans le nord du pays. Lorsqu'il a entendu parler de l'offensive vers Alep, il a repris les armes.
Nous avons passé un accord avec les HTS. Avant le lancement de cette offensive, Hayat Tahrir al-Sham interdisait tout groupe armé qui n'était pas sous son contrôle. Pour libérer Damas, nous avons mis nos désaccords de côté. Mais ici, nous sommes tous de la Route. Nous sommes entrés dans Damas sous le nom des rebelles de Damas.
Aujourd'hui, l'autorité de transition semble n'être tenue que par Hayat Tahrir al-Sham. Face à cette constatation, Bilal préfère laisser la parole à son aîné Ali.
C'est vrai, personne ne peut le nier, mais nous sommes fatigués après 13 ans de guerre. Alors on s'en remet à Dieu, mais nous pensons que le nouveau pays et son autorité devraient appartenir à tout le monde, druzes, chrétiens, musulmans, à tous les citoyens.
Hors micro, Ali nous affirme que Ayat Tahrir al-Sham ne représente en réalité que 20% des hommes qui ont libéré la Syrie et refuse d'être assimilé à un groupe considéré comme terroriste par la communauté internationale. Julien Boileau, Oriane Verdier, Douma, RFI.
Aux États-Unis, la paralysie budgétaire évitée de justesse ces dernières heures.
Oui, après la Chambre des représentants, le Sénat, qui n'avait plus que quelques heures pour le faire, vient d'adopter un texte qui assure le financement de l'État fédéral jusqu'à la mi-mars, malgré les menaces de Donald Trump. Le texte a donc été soutenu par une vaste majorité de républicains, Loubna Naki.
Le président élu avait ordonné aux républicains de torpiller le projet de budget bipartisan dévoilé en milieu de semaine, parce qu'il voulait un texte qui relève ou supprime le plafond de la dette. Donald Trump avait ainsi appelé les membres de son parti à voter contre tout texte qui ne répondrait pas à sa demande, quitte à ce que cela mène tout droit à une paralysie budgétaire. Que le shutdown arrive sous la présidence Biden plutôt que la mienne, avait notamment écrit Donald Trump. Mais après que la Chambre a rejeté un texte soutenu par le président élu, le chef de la majorité républicaine, Mike Johnson, a décidé qu'il valait mieux éviter un shutdown. C'est donc un texte réduit, mais sans aucune mesure sur la dette qui a été adoptée hier pour assurer le budget du gouvernement jusqu'en mars 2025. Sur les 219 républicains, 170 ont voté pour, un geste qui pourrait bien provoquer la colère de Donald Trump, qui préférait ne pas avoir à négocier le plafond de la dette une fois au pouvoir. Même si Mike Johnson a assuré avoir été en contact permanent avec Donald Trump et qu'il était, je cite, content du résultat. Loubna Naki, New York, RFI.
L'urgence toujours à Mayotte, une semaine après le passage du cyclone Chido.
Emmanuel Macron a promis le raccordement des foyers à l'eau ce samedi, au moins de façon partielle. Déclaration à l'issue de plus de 24 heures sur place, où le président a pu mesurer l'épuisement, mais aussi la colère de la population. Le bilan très provisoire du cyclone s'élève à 35 morts, 2500 blessés. Emmanuel Macron, qui a évoqué également, avant de quitter Mayotte, la question des écoles et de leur reconstruction. Écoutez, c'était au micro de nos confrères de la première.
On ne pourra pas rouvrir toutes les écoles le 13 janvier, c'est impossible. Mais on veut pouvoir apporter une solution à toutes les familles pour le 13 janvier. Soit en leur donnant une information pour les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, soit en leur proposant des solutions pendant quelques semaines sur un autre territoire. Je l'ai dit tout au long de ce déplacement hier aux élus, il y a l'urgence qu'on est en train de faire, il va y avoir la stabilisation parce que pendant des mois, Mayotte ne vivra pas en situation normale. Et il y a rebâtir Mayotte, et ça c'est le travail que je veux qu'on conduise ensemble.
Emmanuel Macron qui a rejoint ensuite la base militaire française de Djibouti où il a partagé le repas de Noël avec les 1500 soldats français présents dans cette base. Cap désormais sur l'Éthiopie où il doit rencontrer le Premier ministre Abiy Ahmed. Et c'est dans ce contexte qu'Amnesty International interpelle le chef de l'État français dans un communiqué pour lui demander de saisir cette opportunité pour évoquer les violations importantes des droits humains en Éthiopie. Écoutez Jean-Pascal Soulet, référent Éthiopie au sein de l'ONG.
D'abord, on constate un contexte de répression croissante des organisations de la société civile et aussi des médias indépendants en Éthiopie. Récemment encore, 3 organisations de défense des droits humains ont été suspendues pour des motifs vagues. Ces attaques aussi, elles interviennent dans un contexte de conflit en région Oromia et Amhara. Et depuis leur origine, on a documenté des crimes de guerre, des exécutions extrajudiciaires, des détentions de masse. On pense que le Premier ministre éthiopien devrait donner un ordre clair aux forces fédérales pour qu'ils mettent fin aux violations multiples qui accompagnent leur intervention dans ces régions. Et enfin, j'en viens à l'impunité systémique qui frappe les auteurs des violations, et notamment, bien sûr, pendant la guerre du Tigré, qui était une guerre terrible, qui a fait 600 000 morts, mais aussi qui a été le cadre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Jean-Pascal Soulet, joint par Lisa Fabian.
Un sommet dans une station de ski en Laponie pour parler immigration.
Et les chefs de gouvernement finlandais, grecs, suédois et italiens se retrouvent ensemble, tous unis par une même vision restrictive de l'immigration et de la protection des frontières. L'italienne Giorgia Meloni sera donc de la partie. L'Italie où Matteo Salvini a lui été acquitté des accusations de séquestration de personnes et d'abus de pouvoir en première instance dans le procès de l'affaire du navire Open Arms. À l'été 2019, alors ministre de l'Intérieur, il avait bloqué en mer pendant 20 jours le navire de l'ONG espagnole. Correspondance Anne Lenir.
À Palerme, le vice-président du Conseil a commenté sa relaxe en ces termes.
Ce sont le bon sens, la Ligue et l'Italie qui ont gagné. Défendre les frontières, la patrie, lutter contre les passeurs, les trafiquants et les ONG étrangères n'est pas un crime, mais un droit.
De son côté, la première ministre Giorgia Meloni a fait diffuser un communiqué pour exprimer sa grande satisfaction face à, je cite, une décision de justice qui montre combien les accusations contre Matteo Salvini étaient infondées et surréelles. Des affirmations partagées par l'ensemble de la majorité de droite et d'extrême droite. En revanche, le fondateur de l'ONG Open Arms, Oscar Camps, qui envisage de faire appel du jugement, s'est déclaré attristé pour les 147 migrants contraints de rester à bord du navire humanitaire pendant 20 jours l'été 2019. Pour sa part, Elie Schlein, leader du Parti démocrate, la principale force d'opposition, a déclaré que les décisions de justice doivent toujours être respectées, mais que sa critique politique des choix de Meloni et Salvini ne change pas d'un iota. Anne Lenir, Rome, RFI.
Enfin du sport et de la boxe aujourd'hui. Revanche entre les deux meilleurs poids lourds de la planète. Tyson Fury retrouve Alexander Usyk 7 mois après la victoire de l'Ukrainien. Un combat à 190 millions de dollars, l'un des plus importants de ces dernières années et qui va permettre de désigner le champion du monde dans 3 des 4 grandes fédérations. C'est en fait l'avenir de la catégorie reine qui est en jeu aujourd'hui, Cédric de Oliveira.
December 21st, Usyk versus Fury 2.
Depuis plusieurs semaines, une bande-annonce façon film d'horreur fait monter la pression avec les deux poids lourds complètement obsédés l'un par l'autre.
Ah, you're awake, Mr. Fury.
Fury voit son bourreau Usyk partout et inversement dans une mise en scène qui fait saliver. Malheureusement, la conférence de presse d'avant-combat, beaucoup moins. D'habitude si fantasque, le Britannique de 36 ans n'a fait que répéter les mêmes mots.
J'ai beaucoup parlé, plaisanté la première fois, comme durant toute ma carrière. Cette fois, je suis sérieux, je vais faire des dégâts, je vais mettre ce gars dans le coffre-fort.
En mai, le Gypsy King, invaincu jusque-là, avait subi la loi d'Alexander Usyk, plus petit de 15 cm, mais qui avait bien failli l'envoyer au tapis. Fury avait été sauvé par les cordes du ring, et l'Ukrainien, désormais champion incontesté, se voit bien encore prendre le dessus.
Don't be afraid, I will not leave you alone. See you on Saturday.
N'aie pas peur, je ne te laisserai pas tout seul sur le ring. Usyk n'a toujours pas l'air impressionné. Il s'est ensuite lancé dans le traditionnel face-à-face, 11 minutes, les yeux dans les yeux avec son adversaire. Dernière mise en bouche d'un combat qui s'annonce passionnant.
Cédric de Oliveira, et puis un tout petit mot des arts martiaux mixtes pour vous dire que Saladin Parnasse a déroulé hier face à Wilson Varela et conserve sa ceinture des moins de 70 kilos du KSW, victoire par arrêt de l'arbitre au deuxième round, c'était à la Défense Arena.
Merci Jeanne Bartoli, bonne journée. RFI Matin, troisième et dernière heure. Dans 17 minutes, un nouveau point sur l'info africaine. Et à suivre d'ici là, retour sur la situation en Allemagne. La terreur à Magdebourg après l'attaque à la voiture Bélier. D'hier soir, on en parle dans un instant avec Paul Maurice, chercheur à l'IFRI. Et tout de suite dans la revue de presse. Catherine Potet, cette attaque sur le marché de Noël de Magdebourg en Allemagne, à la une donc de la revue de la presse internationale.
Oui, une attaque dont la presse allemande se fait largement l'écho. Die Welt notamment, qui en quelques mots rappelle les faits. C'est un homme à bord d'une voiture de location qui a foncé sur la foule du marché de Noël de Magdebourg. 2 personnes au moins, dont un enfant, ont été tuées et 60 autres blessés. Le profil de l'agresseur est inhabituel. C'est un médecin saoudien de 50 ans. Il vit en Allemagne. Depuis 2006, il a obtenu le statut de réfugié en 2016, explique Die Welt. Mais surtout, c'est un militant anti-islam. Il considérait les policiers allemands comme des soutiens de l'islamisme et faisait campagne pour l'AFD, l'extrême droite allemande, selon Die Welt, qui a consulté le profil de l'agresseur sur les réseaux sociaux et précisé que selon certaines de ses publications les plus récentes, il se sentait persécuté. Un profil inhabituel actuelle. Donc, alors que les premiers à réagir ont pensé dans un premier temps qu'il s'agissait d'un attentat islamiste. Ainsi, selon Die Welt, la députée d'extrême droite Alice Weidel a demandé quand la folie prendrait fin, sans savoir que l'agresseur se revendiquerait de son propre parti. Elon Musk, nouveau conseiller de Donald Trump, a lui publié des commentaires d'utilisateurs sur son réseau X, liant l'incident au terrorisme islamiste, et il a même réclamé la démission du chancelier Scholz.
À la une également, Catherine, la fin de la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte.
À Mayotte, la reconstruction selon Macron, titre Le Figaro, ajoutant que le président promet une loi spéciale sur le modèle de celle votée pour la restauration de Notre-Dame. Mais ce qu'ont retenu Le Figaro et de nombreux autres quotidiens, ce sont ces mots prononcés face à des habitants mécontents dont certains ont hué le chef de l'État. Si c'était pas la France, leur a dit Emmanuel Macron, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. Libération parle de maladresse et estime que le président a perdu en une phrase le bénéfice d'une visite de 2 jours censée montrer l'empathie présidentielle. Mediapart, de son côté, déplore la com du gouvernement concernant l'aide apportée à Mayotte, se demandant si l'État parle trop vite ou minimise sciemment. Au fil des jours, ajoute le site d'information, la sidération a cédé la place à l'incompréhension et à la colère. Partout, poursuit Mediapart, ce sont les mêmes plaintes qui reviennent. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'information. Dans les bidonvilles de Mamoudzou, personne n'a vu le moindre secouriste ou la moindre distribution de produits de première nécessité, précise Mediapart.
Enfin, au Japon, la presse rend compte de la libération de Paul Watson.
Paul Watson, le militant anti-chasse à la baleine, libéré, arrive en France, titre le Japan Times, rappelant qu'il a passé 5 mois en détention au Groenland en raison d'une demande d'extradition du Japon. Demande qui portait sur un affrontement avec des baleiniers en 2010 et qui a finalement été rejetée par les autorités danoises. Selon le Japan Times, le président français Emmanuel Macron a fait pression sur les autorités danoises pour qu'elles n'extradent pas le militant qui a demandé la nationalité française. Le quotidien japonais relate également les premières heures de liberté de Paul Watson, que l'on voit souriant hier soir à son arrivée à l'aéroport de Roissy à Paris, arrivé accompagné des bravos lancés par les supporters venus l'attendre. Une seule allusion est faite au mécontentement des autorités japonaises qui voulaient mettre Paul Watson sous les verrous. Le gouvernement, nous dit le Japan Times, a exprimé sa consternation après la libération de Paul Watson.
Merci Catherine Potet, à demain. On en parlait à l'instant, 8 ans quasiment jour pour jour après l'attentat à la voiture Bélier qui avait tué 12 personnes en plein cœur de Berlin. L'Allemagne, à nouveau endeuillée et choquée. Hier soir, 2 morts, plus de 60 blessés, dont 15 dans un état grave. Le bilan encore provisoire de l'attaque au marché de Noël de Magdebourg. Une voiture lancée à vive allure a foncé dans la foule sur au moins 400 mètres. Son conducteur, interpellé, est désormais connu. Catherine Potel nous le disait. À l'instant, un médecin de 50 ans d'origine saoudienne, arrivé dans le pays en 2006, dont les motivations restent floues. La piste terroriste a bien été évoquée, mais il arborait des positions anti-islam sur les réseaux sociaux et montrait des signes d'affinité avec le parti d'extrême droite AFD. Torrent de réactions à l'international et dans la classe politique allemande, en pleine campagne pour les élections législatives du 23 février, où la droite est donnée favorite et l'extrême droite en deuxième position. Paul Maurice, chercheur à l'Institut français des relations internationales, nous livre son analyse de ce contexte politique tendu et des conséquences possibles dans les urnes de cette attaque, quelle que soit sa nature. Il est au téléphone de Nicolas Roquin.
L'extrême droite, l'AFD, est plutôt bien placée, en tout cas a actuellement dans les sondages des scores importants à 2 chiffres, entre 16 et 19% selon les sondages. Donc cet attentat s'inscrit dans un contexte où l'extrême droite, qui a surfé sur la vague migratoire de 2015, et cette extrême droite est née, si j'ose dire, politiquement de l'opposition à l'accueil des réfugiés, notamment syriens, en Allemagne en 2015. Et cet attentat intervient un jour assez important pour l'extrême droite, puisque Elon Musk, le patron de SpaceX, de Twitter, a déclaré aujourd'hui que seule l'AFD, seule l'extrême droite, pouvait sauver l'Allemagne. Cette déclaration, associée à un attentat, qu'il soit terroriste ou non, risque de pousser encore plus l'extrême droite, et en tout cas de renforcer l'idée pour ceux qui envisageaient de voter pour ce parti, que ce parti est une solution pour l'Allemagne. C'est aussi un contexte dans lequel, avec le renversement du régime de Bachar al-Assad en Syrie, il y a un débat sur le retour des réfugiés syriens en Syrie. Et beaucoup d'entre eux, depuis 10 ans, sont parfaitement intégrés, parlent parfaitement allemand, participent à l'économie du pays, et il y a un vrai débat de société sur leur retour, sur le fait qu'il faille qu'ils retournent en Syrie. Certains en ont envie, d'autres non. Et en tout cas, l'Allemagne a déclaré ne plus accueillir de réfugiés syriens depuis la fin de ce régime politique.
C'est évidemment un événement qui rappelle le précédent de Berlin en 2016. Un attentat terroriste au camion bélier lors d'un marché de Noël déjà avait fait 13 morts. Comment est-ce que l'Allemagne avait réagi à l'époque ?
La société allemande avait été extrêmement choquée puisque c'était le premier attentat à caractère islamiste de grande ampleur en Allemagne. Et ça avait créé de nombreux débats sur la capacité d'accueil et sur les conséquences de l'accueil de ces réfugiés en Allemagne. Il s'agissait d'un attentat islamiste et ça avait provoqué des doutes au sein du camp d'Angela Merkel sur la capacité de l'Allemagne à intégrer ces réfugiés. Elle avait dit à l'époque, je le rappelle, nous y arriverons, et elle avait accueilli 1 million de réfugiés. Il y a eu depuis d'autres attentats. On peut rappeler celui de Solingen, une attaque au couteau à la fin du mois d'août dernier qui avait donné des ailes au parti d'extrême droite pour l'élection dans 3 Länder de l'Est au début du mois de septembre, et cela avait conforté l'extrême droite dans ses positions.
Est-ce que cette attaque, ces morts, sont à même d'entraîner un durcissement des positions des autres formations politiques, pas uniquement de l'AfD, mais aussi des autres partis sur les questions migratoires ?
La CDU actuelle, celle de Friedrich Merz, celle de son dirigeant, est beaucoup plus conservatrice sur beaucoup de questions que celle qui était la CDU à l'époque d'Angela Merkel, qui était plutôt centriste. Friedrich Merz s'est déjà positionné sur les questions migratoires, il est très ferme sur les questions migratoires, et il est possible qu'un tel attentat, si cela est confirmé que c'en est bien temps, puisse durcir le discours politique à droite, c'est vrai, mais aussi pour tous les partis. Il faut se rappeler que au mois de septembre, quand on a eu les conséquences de l'attentat de Solingen, c'est la ministre de l'Intérieur et le chancelier eux-mêmes, sociaux-démocrates de gauche, qui avaient annoncé la fermeture des frontières allemandes de manière unilatérale afin de répondre à cette question migratoire. Et tout ceci s'inscrit dans un contexte électoral, c'est-à-dire que chacun des partis devra se positionner dans une crainte de l'électorat de voir d'autres attentats comme celui-ci se reproduire, et donc chacun va adopter une position sûrement beaucoup plus ferme, qu'il soit au gouvernement ou dans l'opposition.
Paul Maurice, chercheur à l'Ifri avec Nicolas Roca, et après cette attaque à la voiture bélier sur un marché de Noël à Magdebourg, le chancelier sortant Olaf Scholz se rendra sur place dans la matinée. Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Gros plan sur l'une des créatures les plus robustes du monde animal aujourd'hui. Le microscopique tardigrade est une star des laboratoires, et pour cause, il est quasiment indestructible.
Vous n'en avez probablement jamais vu car il est presque invisible à l'œil nu. Tout petit mais super costaud, il ne paye pas de mine. Également appelé ourson d'eau ou porcelet des mousses, selon les milieux dans lesquels il évolue, le tardigrade est d'aspect trapu, boudiné avec une sorte de groin. Les scientifiques qui l'étudient dans le monde entier en ont dénombré à ce jour plus de 1300 espèces différentes, principalement terrestres, mais aussi marines et d'eau douce. Et s'il fascine autant les chercheurs, c'est parce qu'il résiste à tout le bougre, aux températures les plus extrêmes, du zéro absolu jusqu'à 150 degrés, mais aussi aux radiations, aux métaux lourds et aux molécules chimiques. Indestructible, le tardigrade, quasiment. Les chercheurs ont eu beau leur infliger les pires sévices, les faire bouillir, les congeler, les empoisonner ou les écraser, les tardigrades ont même survécu à plusieurs voyages dans l'espace, notamment à bord de la Station Spatiale Internationale, sans combinaison et sans aucun dommage.
Comment expliquer une telle robustesse ? Les tardigrades survivent à tout ?
Plus fort que ça, Julien, ils sont capables de ressusciter. Ou plus exactement, de mettre leur existence entre parenthèses, sur pause, pour revenir à la vie quand les conditions leur sont favorables. Le secret de leur robustesse réside dans un phénomène qu'on appelle la cryptobiose. En milieu hostile, ces increvables créatures se déshydratent. Elles expulsent toute l'eau de leur minuscule corps et se dessèchent, jusqu'à devenir totalement rabougries et inertes. Elles entrent alors dans un état de dormance qui peut durer plusieurs décennies. Une simple goutte d'eau, un brin d'humidité des années plus tard, suffit à les ramener à la vie. Des biologistes américains ont voulu comprendre comment les tardigrades parvenaient à ressusciter. Ils ont découvert qu'au cours de ce processus, les tardigrades produisaient une protéine qui, transformée en gel, préserve leurs cellules des effets du dessèchement. De quoi inspirer la recherche dans de nombreux domaines, et ce n'est pas tout. Des biologistes japonais ont découvert que même sans se mettre en dormance, les tardigrades pouvaient encaisser des radiations 1000 fois supérieures à la dose létale mortelle pour les humains. Comment ? En déployant une sorte de bouclier qui protège leur ADN. Voilà qui pourrait être bien utile aux humains dans l'espace. C'est pourquoi une étude est toujours en cours sur la cohorte de tardigrades envoyée en 2021 avec Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale. Pour tout savoir sur les super pouvoirs des minuscules tardigrades, je vous renvoie sur l'excellent documentaire scientifique et humoristique de Raphaël Ittier sur Arte. Tardigrade, l'animal indestructible, à voir sans modération jusqu'au 17 janvier sur la plateforme arte.tv.
On n'y manquera pas. Merci Caroline Lachowski. RFI, bientôt 7h30, en temps universel. Et avant un nouveau journal Afrique, notre reportage culture du jour. En Corée du Sud, après le prix Nobel de littérature décerné cette année à l'autrice sud-coréenne Han Gang, le pays du matin calme souhaite profiter de l'occasion pour s'exporter. À domicile, Han Gang a vendu près de 3 millions de copies, mais désormais, c'est vers le marché international que les regards se tournent. Traduction, adaptation, le secteur du livre coréen se met en ordre de marche à la conquête de nos librairies. Reportage à Séoul de notre correspondant Célio Fioretti.
Le 10 octobre dernier, Han Gang remportait à la surprise générale le prix Nobel de littérature. Kang Yong-gyu est l'éditeur d'Han Gang. Pour lui, la reconnaissance internationale de la littérature coréenne était presque impensable.
Il y a quelques années encore, si l'on allait dans des librairies étrangères, la littérature chinoise et japonaise avait des sections dédiées, tandis que la littérature coréenne n'avait pas de section à part. Donc il y avait peu de chances d'attirer l'attention sur nous.
Cependant, le vent tourne et plutôt en faveur de la littérature coréenne, comme le reconnaît Kang Yong-gyu.
Depuis environ 10 à 20 ans, la culture populaire coréenne, la musique, l'art, le cinéma suscitent un intérêt mondial croissant. Avec ce prix Nobel de littérature, les œuvres d'autres auteurs coréens vont probablement recevoir également une attention accrue.
Effectivement, depuis le prix Nobel, Kang Yong-gyu a reçu de nombreux coups de fil d'éditeurs étrangers pour traduire ses romans. La traduction est évidemment nécessaire pour s'exporter. Pour cela, le pays s'est préparé depuis des années. Direction l'Institut de traduction littéraire, où nous retrouvons sa directrice Song Soyeon.
Notre institut a été fondé en 1996 sous l'autorité du ministère de la Culture dans le but de présenter la littérature coréenne à l'international. Depuis qu'on a commencé, plus de 2500 œuvres coréennes ont été traduites en 42 langues différentes.
Au-delà de la traduction, l'Institut forme aussi des traducteurs dont la majorité sont des étrangers. Nous retrouvons Camille à la sortie de son cours. Elle étudie la traduction en français des œuvres coréennes.
Et on a un cours plus professionnalisant où on doit choisir chacune une œuvre coréenne qui n'a jamais été traduite en français. Il y a un éditeur qui recruté par l'Académie exprès, on traduit des passages et on fait une présentation de l'auteur et du livre pour après pouvoir vraiment éventuellement proposer en France à des éditeurs. Donc c'est bien d'avoir ce retour d'un éditeur français.
Des cours donc pensés pour favoriser l'export de la littérature coréenne qui espère un jour rivaliser avec les auteurs japonais ou chinois dans nos librairies. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
Notre reportage culture en Corée du Sud que vous retrouvez à tout moment bien sûr sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Bienvenue sur la radio du monde si vous nous rejoignez. Le journal dans une minute, à tout de suite.
RFI à Libreville, 104 FM. Freetown, 89.9 FM.
Sans cesse, nous nous battons pour protéger les journalistes. Sans limite. Nous nous battons pour contrer la propagande, sans jamais reculer, sans jamais abandonner, sans frontières. Mais pas sans vous. Nous avons besoin de vous pour défendre la liberté de la presse et votre droit à l'information. Faites un don sur rsf.org. Reporters sans frontières, fight for facts.
100% création, Maria Afonso.
Retournons à Notre-Dame de Paris avec 100% création. Ce dimanche, découvrez les Lustriers avec Régis Mathieu et son atelier Mathieu Lustrerie. Ils ont restauré les luminaires de Notre-Dame de Paris pour qu'ils brillent à nouveau de mille feux sous les voûtes de la cathédrale. Retrouvez-nous à 7h55 et 12h54, temps universel sur RFI.